la fourchette de l'actu. Prenez une bouchée d'actualité près de chez vous tout cet été avec la fourchette de l'actu. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans votre nouveau rendez-vous hebdomadaire, la fourchette de l'actu. Concrètement, durant cet été, je vous propose tous les lundis une émission sur l'actualité de Montpellier et ses alentours. Et aujourd'hui, avec un beau soleil qui illumine Montpellier, c'est sans plus tarder que je commence pour 30 minutes avec vous. Vous l'attendiez, elle est enfin arrivée. Depuis la semaine dernière, la 4G a envahi les réseaux de téléphonie montpelliérains. En effet, mercredi 3 juillet, Orange a lancé la 4G dans la capitale héraultaise. Actuellement, 36 agglomérations en France sont déjà couvertes par le réseau 4G d'Orange, mais l'entreprise de téléphonie compte bien couvrir 50 agglomérations dès la rentrée scolaire prochaine. Une véritable course de vitesse est donc lancée. Pierre Clément est le directeur d'Orange Sud, qui couvre les territoires du Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées. Il nous explique quelles différences majeures existent entre cette tant attendue 4G et les anciennes technologies de type 3G+.
La nouveauté, c'est de la vitesse, de la rapidité, du confort d'utilisation, puisque la particularité de la 4G, c'est d'offrir des débits beaucoup plus importants, qui peuvent aller jusqu'à 150 Mbps. Et donc, dans tous les usages que l'on peut avoir en mobilité, avec son smartphone, avec sa tablette, on pourra, par exemple, télécharger des films ou des vidéos beaucoup plus rapidement qu'auparavant.
C'est-à-dire beaucoup plus rapidement, un petit exemple ?
Un exemple très simple, un film d'un gigaoctet, il fallait à peu près 27 minutes pour le télécharger, il faudra moins de 3 minutes pour le télécharger avec la 4G.
Une véritable avancée, donc ?
Oui, une véritable avancée qui nous permet effectivement d'avoir aussi de nouveaux usages. On va pouvoir, par exemple, sur le marché professionnel ou entreprise, pouvoir proposer des services de téléconférence, de visioconférence sur des tablettes en très haute définition grâce à la 4G.
Donc ça touche aussi bien les professionnels que le citoyen lambda. Mais quelle zone vous couvrez là à partir d'aujourd'hui? C'est Montpellier, tout Montpellier? Comment ça se passe?
Alors oui, ça couvre le marché grand public et le marché entreprise au sens large du terme, donc les pros, les PME et le marché entreprise. On a adapté des offres pour ce marché. Aujourd'hui, on ouvre et on couvre la totalité de Montpellier. Donc vous pouvez tester avec votre smartphone. Il y a la 4G qui est disponible aujourd'hui sur Montpellier. Et puis, d'ores et déjà, on est présent sur quelques zones à l'extérieur de Montpellier, sur l'agglomération. Et on va étendre la couverture pour couvrir l'agglomération d'ici quelques semaines.
L'objectif, c'est ça, d'avoir toute l'agglomération couverte pour avoir un réseau maximal.
Exactement. L'objectif, c'est de commencer par les centres-villes que l'on a choisis, et ensuite de couvrir toutes les agglomérations, puis ensuite de faire d'autres agglomérations. Aujourd'hui, en France, on a déjà 36 agglomérations qui sont couvertes. Ça représente plus de 103 villes.
Et vous le disiez tout à l'heure, Montpellier, première ville de votre secteur.
Oui, oui, c'est une grande fierté. Montpellier, c'est la première ville que nous inaugurons. Alors, dès demain, je ne pourrai plus utiliser cet argument puisque nous allons à Perpignan. Je le disais aussi tout à l'heure, c'est une course de vitesse, c'est une course de fond et de vitesse à la vitesse de la 4G qui nous emmènera très bientôt vers Nîmes, vers Alès et bien d'autres villes, mais ce sera dans les surprises de la rentrée.
Et cette vitesse, elle sera à quel prix?
Alors cette vitesse aujourd'hui, c'est assez simple, ça va vous coûter, si vous souscrivez avant le 31 décembre, 1 euro de plus pour avoir accès à ce service sur nos offres Origami. 1 euro de plus, sauf sur notre très haut de marché, on appelle les Origami Jet, et là, c'est le même tarif qu'auparavant, donc le tarif que vous aviez en 3G sera identique. Donc il faut retenir 1 euro de plus jusqu'au 31 décembre. Par contre, après le 31 décembre, la tarification sera revue, et ça sera environ 10 euros de plus.
On va encore parler argent. Vous, personnellement, quel investissement ça a représenté de faire cette 4G à Montpellier?
Alors la 4G à Montpellier, c'est un investissement qui est de 3,7 millions d'euros. Voilà, et puis on a équipé une soixantaine d'antennes de cette nouvelle technologie.
Et pourquoi Montpellier et pas d'abord Toulouse, par exemple, dans votre secteur?
Ah, il y a des spécificités techniques qui expliquent pourquoi Montpellier avant Toulouse. On est prêt, quasiment prêt sur Toulouse, mais on a été dans l'obligation d'utiliser une technologie un tout petit peu différente parce qu'il y a la proximité de l'aéroport de Blagnac et on est obligé de prendre des précautions particulières. Donc Toulouse arrive dans la foulée, c'est le 12 juillet pour Toulouse. Donc on est vraiment dans des calendriers qui sont très très proche.
Sur les rails, pour ne pas faire de lien avec la LGV, mais c'est sur les rails.
Alors, sur les rails, pour reprendre la plaisanterie que faisait Mme Mandrou, maire de Montpellier, effectivement, nous sommes allés beaucoup plus vite, je crois. Et elles sont félicitées dans la mise en œuvre de la 4G, puisqu'on l'avait annoncé il y a quelques semaines et c'est fait maintenant. Bon, c'est vrai qu'il y a eu plus mauvaise surprise sur la partie LGV, mais ça, c'est un autre sujet sur lequel je ne peux rien faire.
Enfin, si vous souhaitez connaître les zones de couverture de la 4G, vous pouvez retrouver la liste complète des villes reliées sur très haut débit, sans accent, www.orange.fr. Transport. Mercredi dernier, le président de la région Christian Bourquin et le président de l'agglomération Jean-Pierre Moure étaient à Paris pour une entrevue avec le ministre des Transports. Ensemble, ils ont parlé de la future ligne à grande vitesse, la LGV. Et suite à cette rencontre, Jean-Pierre Moure semble optimiste.
Oui, il faut l'être optimiste par rapport à ces grands enjeux parce qu'ils sont d'un enjeu vital pour le territoire. Ce qui a été dit hier, raisonnablement optimiste, il faudra voir ce que la suite nous amène. Mais ce que nous avons dit au ministre hier, ce que nous avons entendu également, c'est que d'une part, le dossier de LGV Montpellier-Perpignan n'est pas stoppé, il n'y a pas de rupture, les études, les procédures suivent leur cours et le délai de la DUP, on va rentrer dans le faisceau des derniers 300 mètres, hein, qui sont entre l'axe définitivement choisi, approche et la DUP ne sera pas dans ces délais perturbés, donc le dossier avance. Deuxième élément, les dates qui ont été avancées parfois, 2030, 2040, sont des éléments qu'a repris la commission du Rhône, qui ne lie pas en tant que tel le gouvernement, et le Premier ministre qui fera une annonce le 9 juillet, mais ce sont des dates qui correspondent essentiellement aux paramètres européens par rapport aux décades de financement européens. Donc à partir de là, nous avons été amenés à repréciser un certain nombre d'éléments clés de ce dossier, à savoir qu'ici, la ligne Montpellier-Perpignan, c'est une ligne qui déjà a été amorcée par un premier tronçon qui est Nîmes-Montpellier, le contournement, dans lequel les collectivités sont dans un large financement, la région 400 millions, l'agglomération 80 millions et valeur 2013 100 millions. Ça veut dire également que c'est sur un des critères opérants par rapport aux lignes LGV, c'est une liaison nord-sud, Amsterdam, Madrid ou Valence et Francfort, Séville. Ça veut dire tout simplement que c'est un dossier d'intérêt européen et même international et que par ailleurs ils rejoignent les grandes métropoles de demain. Donc là les conditions sont réunies. Ensuite, ce que j'ai eu l'occasion de préciser au ministre, c'est que la commission du Rhône ne prenait pas du tout suffisamment en compte l'effet du contournement de Nîmes-Montpellier sur le reste du tronçon qui est effectivement concerné. Puisque si on prend deux chiffres, actuellement, en 2013, il y a 13 TGV qui arrivent à la gare Saint-Roch et qui représentent 6,7 millions de voyageurs par an. Et en 2025, avec le contournement de Montpellier, on sera déjà à 70 TGV et on sera à 13 millions de voyageurs. On aura doublé en quelque sorte les voyageurs et on aura multiplié quasiment par 5 ou 4 le nombre de TGV. Ça veut dire tout simplement que si on se contente d'accepter ça et de ne pas aller au bout de la concrétisation de la ligne grande vitesse Montpellier-Perpignan, on plante les transports express régionaux, on plante le fret, c'est tout à fait incompatible avec l'engagement de l'État et des collectivités quand on a commencé à réaliser le contournement de Montpellier. Donc la réunion s'est déroulée sur ces présentations d'arguments. J'attends maintenant, nous attendons avec une certaine confiance la décision politique qui sera annoncée. Mais elle n'est certainement pas dans l'ordre de timing qui avait été évoqué après 2030, etc. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que la part de l'Europe mériterait d'être largement supérieure. Dans la première partie contournement Nîmes-Montpellier, on est à 2,8% de financement européen. Il faut aller chercher un financement européen à deux chiffres, entre 15 et 20, si on peut plus. Mais ça sera difficile, mais il faut aller le chercher. C'est peut-être la voie dans laquelle le gouvernement peut plaider, effectivement, à travers une relance des investissements européens. Vous savez, le rapport du Rhône, il a eu à examiner une lettre au Père Noël de 245 milliards d'euros, qui est tout à fait injouable actuellement par l'État français. Celui-ci pourra mettre en dispositif une évolution entre 8, 18 millions et 30 millions. Donc il n'y a pas photo, l'écart il est important. Mais dans les priorités, on se doit d'y être.
Du côté de FM+, nous ne manquerons pas de vous tenir au courant des avancées de ce dossier. On continue avec cette page sur les transports avec la ligne 5 du tramway de l'agglomération de Montpellier. Cette ligne devrait, une fois construite, relier La Vérune, Montpellier, Saint-Jean-de-Védas, Clapier et Pradet-le-Lez. Concrètement, une première enquête publique concernant le tronçon La Vérune-Clapier s'est déroulée du 10 avril au 13 mai dernier. À l'issue de cette première phase, la commission d'enquête a rédigé un rapport qui a ensuite été remis au préfet de région Pierre de Bousquet. Le rapport, quant à lui, a conclu à un avis favorable. Trois recommandations ont cependant été retenues. D'abord, commencer les travaux avec le bouclage de la ligne 4. Ensuite, étaler les investissements en différant l'exécution des travaux pour les trois tronçons d'extrémité. Enfin, conserver la proposition de la desserte du quartier La Gaillarde Supagro-INRA. Robert Subra est président de la Société de transport de l'agglomération de Montpellier, la TAM, et il se dit satisfait de ce résultat.
Ils ont approuvé ce qu'on avait proposé, mais Montcalm, les gens disent n'importe quoi, c'est ça qui est un peu attristant, quoi, parce que le parc Montcalm aujourd'hui, il n'existe pas. Il y a un espace qui va devenir le parc Montcalm, avec effectivement un parc important qui va être créé par la ville, avec la démolition d'immeubles qui sont vétustes, qui sont au milieu, comme la piscine qui va disparaître, ou d'autres bâtiments. Et je crois que ça va être présenté le 10 juillet à la ville. Il y a vraiment un parc d'au minimum 15 hectares d'un seul tenant qui va être créé par la ville. Un vrai parc, et pas un espace comme c'est actuellement. Où passer des chars, où il y a une piste de chars, il y a beaucoup de choses qui passent dedans. L'espace sera maintenu. Et nous, on a proposé d'avoir des stations qui sont de part et d'autre de l'espace de l'EAI, c'est-à-dire de part et d'autre, le parc Montcalm est à l'intérieur de l'EAI, et on passe dans la limite nord, en bordure de la limite nord. Voilà. Ce qui fait qu'il n'y aura pas de rupture entre... La ligne ne coupera pas le parc en deux. Mais les gens qui ont parlé de ça, et notamment notre ami le député Roumégas, il n'est jamais venu aux réunions de concertation. Je lui ai déjà répondu en conseil municipal. S'il était venu en réunion de concertation... S'ils avaient écouté ce qu'on disait, ben, il aurait bien vu qu'effectivement, on ne coupait pas le parc. On n'est pas fou vers le parc. Ce qui demain deviendra le parc. On ne peut pas imaginer qu'on fasse un parc de 15 hectares avec au milieu une ligne de tramway qui passe. La ligne de tramway, elle passe dans la partie supérieure. Et puis, il y a de quoi largement faire plus de 15 hectares de parc d'un seul tenant en dessous. Il n'y a pas de souci. Le parc, il se fera. Et il se fera un beau parc. Mais pour l'instant, ce n'est pas un parc, c'est un espace vert. Pas complètement vert, je veux dire, il y a des bâtiments qui vont être démolis manifestement, qui sont au milieu de tout ça, et qui rompent l'unité. Je ne sais pas ce que va devenir la maison du général, la plus grande signification, quoi. Tout ça va être repris dans l'ensemble qui est en train d'étudier, et que la SAM va réaliser, et les architectes vont déposer le premier projet, je crois que c'est le 10 juillet. Donc il n'y a pas de souci. Et donc nous, comme on était calé en limite, ce sera une voie engazonnée, avec... pour protéger de quoi que ce soit avec un petit monticule, avec des gens. Non, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est comme ça qu'on l'avait présenté, c'est comme ça qu'ils l'ont vu, qu'ils l'ont retenu. Il n'y a aucune réserve là-dessus. Le souci qu'on avait dans ce coin-là, ce n'était pas le parc. C'est le souci qu'on avait, c'est qu'effectivement, c'est comment passer par la rue de Bugarel sans toucher le parking des grandes résidences que sont les Hauts-d'Argency et le Turin. Et là, Jean-Pierre Moore nous a dit, débrouillez-vous, ne touchez pas au parking de ces résidences. Et là, il s'est débrouillé. On s'est débrouillé, on a fait un espace partagé, il y a des voies de circulation qui seront faites, et en accord avec les riverains, on ne touche pas une seule place de parking de ces grands ensembles.
Économie maintenant avec la gouvernance de Montpellier Unlimited. Concrètement, depuis le 19 avril dernier, 15 acteurs du développement économique du territoire de l'agglomération montpelliéraine se sont unis autour de Montpellier Agglomération afin de mettre en place une gouvernance économique. Cette dernière s'est réunie mardi 2 juillet. Gilbert Pastor était présent, il est vice-président de l'agglomération montpelliéraine. Il évoque avec nous le plan d'action sur 5 ans pour Montpellier Unlimited.
C'est d'une part... Comment aider les entreprises à croître ? On a actuellement un pack croissance avec une personne. Nous avons d'excellentes entreprises qui comptent 50 salariés. On leur permettre de passer le seuil des 100, 200, 250 salariés. Et on a aussi des grands comptes. Ça, c'est toute une problématique qui est propre à la France. Il faut les accompagner au point de vue juridique, au point de vue trouver des financements, etc. C'est un problème majeur et c'est là-dessus qu'on gagnera et être un peu un modèle en France à ce niveau-là. Le deuxième, c'est Montpellier, capitale numérique. Le numérique, c'est quelque chose de transversal, c'est quelque chose qui va induire une révolution dont les gens ne voient pas actuellement toutes les conséquences, qui va modifier profondément les comportements et qui va être générateur de richesses. Donc il nous faut impérativement, autour du quartier Oz, où là on va créer un hôtel du numérique qui va faire 12 000 m², on va pouvoir avoir un lieu emblématique et se positionner comme capitale du numérique.
Vous avez aussi parlé d'un pôle d'enseignement.
C'est une demande qui est revenue. Si on veut avoir des professeurs de haut niveau, des cadres internationaux de bon niveau, il faut créer une école qui fasse le primaire et le collège de façon à accueillir les enfants de ces cadres étrangers parce qu'ils vont venir passer 3-4 ans en France et après il faut qu'ils repartent avec plusieurs langues d'enseigner, etc. Voilà les trois grands axes dont on a parlé ce matin, sur lesquels on est tombé d'accord. On va amender les propositions qui sont faites et tout cela sera validé dans les mois qui viennent. Mais c'est quelque chose qui va démarrer très vite.
Montpellier Unlimited, donc de réunir comme ça plusieurs acteurs de secteur économique de l'agglomération montpelliéraine, c'est quand même pas une première en France, mais vous êtes l'une des seules villes à le faire.
C'est effectivement une des seules villes à le faire. Et vous voyez que mettre autour de la même table les présidents de pôle compétitivité, les présidents d'université, les représentants des chambres consulaires, c'est très apprécié. Ça se passe très très bien parce qu'on voit à ce moment-là, les problèmes sont abordés de différentes manières par les uns et par les autres. Et ça nous permet de faire une synthèse et surtout surtout de ne pas reproduire des erreurs qui auraient pu être faites par le passé.
Et parmi les 15 acteurs du développement économique, on retrouve Philippe Auger. Il est président de l'université Montpellier 1 et pour lui, l'un des rôles de l'université est bien d'enseigner, mais ce n'est pas le seul. En effet, il n'a pas peur de dire que son devoir est également de conduire les jeunes sur le marché vers l'emploi.
Déjà, cette gouvernance économique, elle regroupe des acteurs de toutes origines, du monde de l'industrie, de l'entreprise, de la fonction publique. Et nous, l'université, finalement, on est au croisement en tant qu'opérateur de formation et de recherche. De l'autre côté, on a beaucoup d'étudiants qui viennent chez nous pour acquérir une formation, mais une fois diplômés ensuite, eh bien, ont vocation à chercher un emploi, à trouver un emploi. Donc nous, en tant que chef d'établissement, nous devons également travailler pour tout ce qui est la création d'emplois dans notre bassin, le bassin de Montpellier.
Enfin, si vous souhaitez suivre l'actualité de Montpellier Unlimited, je vous invite à consulter leur site internet, le www.montpellier-unlimited.com. Après 25 ans en délégation de services publics, aussi appelée DSP, la gestion de l'eau dans 11 communes de l'agglomération, dont celle de Montpellier, devrait passer en 2021 à la régie publique, ce qui donc devrait faire entrer en jeu des sociétés privées sur le marché de l'eau montpelliérain. Du côté du président de l'agglomération Jean-Pierre Moore, ces 7 années à venir vont permettre d'assurer une bonne transition, car pour lui, passer immédiatement en régie publique est impossible. Au micro de FM+, il explique ce choix plus en détail.
Il est important de pouvoir préparer l'avenir. C'est une gestion de courte durée, de 7 ans, délégation de 7 ans, permettant d'assurer la transition vers ce que sera logiquement la régie au terme de cette mandature. C'est un choix qui a été opéré puisqu'il apparaît qu'entre régie, délégation ou les systèmes intermédiaires, il n'y a pas d'élément discriminant en termes de prix par rapport à ces modes de gestion. Par contre, il y a toute une série de paramètres en termes de qualité, en termes du prix de l'eau lui-même, en termes de difficultés, de compléments techniques à apporter en termes de personnel, en termes de technicité de l'opération, qui sont à prendre en compte. Le résultat de ces différents scénarios plaide pour la délégation, de courte durée, comme je l'ai indiqué, mais ça s'assortit également d'autres dispositifs très très importants, c'est-à-dire qu'à partir du 1er janvier 2015, baisse du prix de l'eau de 10%, c'est-à-dire 30 centimes par mètre cube sur une consommation moyenne de 120 mètres cubes. Donc 10% de moins de prix de l'eau à partir du 1er janvier 2015, la situation est gelée en 2014. Ensuite également, forte volontarisme social sur le fait que nous aurons un chèque eau en liaison avec les CCAS et un conventionnement qui sera porté avec l'Union départementale des CCAS pour faire face auprès des familles qui sont en difficulté ou nécessiteuses d'une amélioration par rapport à leur moindre facturation sur la thématique de l'eau. Ensuite, il y a également un impératif qui est important, c'est-à-dire que l'agglomération assure pour l'avenir un gros programme d'investissement permettant de faire face à l'évolution du territoire, mais également au renouvellement des réseaux, à tout ce qui est indispensable en termes d'avoir un réseau vraiment adapté pour l'avenir. C'est 157 millions d'euros d'investissement qui vont être réalisés d'ici 2030. Donc gestion par délégation de transition sur les 7 ans, permettant d'envisager ensuite la régie, d'être beaucoup plus opérationnelle et pragmatique. Ensuite, grande action sociale par rapport à la baisse du prix de l'eau, moins 10% au 1er janvier 2015, et accompagnement social pour ceux qui sont en difficulté avec le chèque eau. Plus toute une série d'actes qui vont être mis en place dans le prolongement de ce forum, avec une charte d'engagement représentant une trentaine de points, dont 10 sont essentiels. La mise en place également d'une commission extra-communale représentant les maires et tous les acteurs et experts permettant de se saisir en permanence du suivi, de l'évolution et de la thématique de l'eau en tant que point fort de la politique de l'agglomération de Montpellier et faire en sorte également que ce forum il soit pérennisé dans la durée comme scène en quelque sorte un peu de débat permanent autour de ce facteur important qu'est l'eau dans l'évolution de la société, mais parce qu'il faut aussi la préserver en termes de ressources pour la planète. Beaucoup d'initiations aussi en direction des enfants sur le fait de vouloir économiser l'eau comme on le fait pour les déchets, moins de déchets, économisons l'eau, développons l'activité, faisons plus de logement social. C'est un des paramètres importants qu'a à gérer l'agglo en termes de compétences. Je crois que la proposition qui est faite au Conseil va dans le bon sens pour l'avenir de ce territoire et surtout l'intérêt public et l'intérêt particulier de ses usagers.
Enfin, cette décision de passer en 2021 en régie publique de l'eau devrait être actée au prochain Conseil d'agglomération le 25 juillet prochain et le contrat de transition débuterait alors en 2014. Environnement maintenant avec la collecte et la gestion des déchets ménagers. En effet, comme chaque année, Montpellier Agglomération met à disposition de ses habitants des sacs biodégradables pour collecter les biodéchets.
Mais les biodéchets, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ce sont tout simplement des ordures d'origine animale et végétale, à savoir donc des restes de repas, du papier, des épluchures, des fleurs fanées ou encore des filtres à café. Cela représente près de 30% du poids de nos ordures. Pour une agglomération comme Montpellier, cela pèse environ 100 kg par habitant et par an. Et une fois collectés, ces déchets sont valorisés. D'abord, ils sont envoyés à l'unité de méthanisation améthyste, car leur fermentation produit un gaz très riche en méthane et ce dernier sert à alimenter une unité électrique et à terme à chauffer des logements sur une partie du quartier des Grisettes. Ensuite, l'autre partie est transformée en compost de bonne qualité à destination de la production agricole. Pour collecter ces biodéchets, il vous faut donc être équipé d'une poubelle orange destinée à ce type de déchets. Donc, si vous en possédez une, vous pouvez vous rendre dès à présent dans l'ensemble des maisons de l'agglomération de Montpellier afin de retirer deux rouleaux de 26 sacs biodégradables réalisés en matière végétale et ayant une contenance de 20 litres. Pour cela, il vous sera simplement demandé une pièce d'identité et un justificatif de domicile. Et afin d'éviter les mauvaises odeurs, l'agglomération déconseille les utilisateurs de mettre des déchets humides dans les sacs, mais aussi de veiller à la bonne fermeture des sacs. Enfin, si vous souhaitez avoir toutes les informations concernant le tri des déchets, vous pouvez vous rendre sur le site de l'agglo, le www.montpellier-agglo.com. Et si vous optiez pour le vélo ? C'est l'option choisie par Montpellier Agglomération. En effet, en partenariat depuis 7 ans avec la TAM et la commune Villeneuve-les-Maguelone, l'opération Vélomag Plage est renouvelée. Concrètement, cette action permet d'aller à la plage en prenant d'abord le bus, puis le vélo. Ainsi, 180 vélos californiens, dont 6 équipés en siège bébé, 10 vélos enfants et 5 VTT remorques sont mis à disposition. Ces deux roues peuvent ainsi être empruntées par les voyageurs de la ligne 32 au terminus Pilou de Villeneuve-les-Maguelone, sur présentation d'un titre de transport TAM validé et d'une pièce d'identité pour la caution. Une belle initiative qui permet aux habitants mais aussi aux touristes de profiter de l'environnement en découvrant de manière ludique, sportive et écologique les plages, les étangs et le patrimoine de la commune. Cette offre est valable durant les horaires d'ouverture, tous les jours de 9h à 19h, mais profitez-en car cette opération se termine le 1er septembre. On termine notre émission avec l'exposition Insoumise, combat de femmes d'aujourd'hui. Pendant un an, cette exposition voguera de médiathèque en lycée de l'agglomération montpelliéraine. Le but étant de mettre en avant les inégalités hommes-femmes qui existent encore partout dans le monde. Une exposition itinérante donc qui abrite 12 panneaux d'un mètre sur 2 mètres de hauteur. Chacun retrace les parcours d'une femme qui a lutté ou lutte encore pour ses droits. Elles viennent d'un peu partout, États-Unis, Guatemala, Libéria, France, Tunisie, Burkina Faso, Roumanie, Arabie Saoudite, Afghanistan, Chine ou encore Inde. Elles parlent de leur lutte contre les viols, la prostitution, mais aussi pour leur statut et leur liberté. Mardi 2 juillet, nous avons découvert cette exposition au lycée Georges Fraîche de Montpellier et à l'occasion du décrochage de cette exposition, nous avons interrogé le président de Montpellier Agglomération, Jean-Pierre Moore, sur le parcours de ces 12 femmes.
12 femmes qui, de par le monde, dans les sociétés occidentales, mais de par le monde également, luttent contre le chancre de la société actuelle, qui est vieux que le monde aussi. C'est toute une série de détresses, d'exactions, de violences qui sont faites aux femmes. Nous sommes en train d'affirmer la nécessité, l'intérêt, la normalité, je dirais, qu'il y ait une égalité entre femmes et hommes. Cette exposition vise à ça. Elle montre ce que, en tant qu'insoumise, ces femmes là porte le vrai combat du 21e siècle, celui qui doit mettre les femmes à égalité des hommes. On a lancé cette exposition le jour de la journée des femmes, le 8 mars, sur la place des grands hommes, où, comme je le disais à l'instant, il y avait un lien dans les 12 statues qui étaient positionnées, c'était celui de Golda Meir, qui a porté également un combat essentiel pour l'avenir des femmes dans leur équilibre et puis dans leur décision d'avoir des enfants. Et ça, c'est un combat important. Il y a eu d'autres combats, celui-ci est particulièrement d'actualité. Et je suis très heureux que cette exposition, le décrochage d'aujourd'hui, il ouvre des expositions, des présentations dans les lieux de culture, dans les lieux de quartier, dans les lieux de lycée. j'espère dans les collèges également, de manière à ce qu'on insiste bien sur l'importance de se battre pour cette vraie question.
Et cette démarche, justement, permet à l'agglomération de montrer bien sa position.
On est très engagé dans ce vrai combat de société. Elle l'applique dans son quotidien, dans son organisation. La majorité des femmes sont responsables et personnelles de l'agglomération de Montpellier. Nous avons programmé 8 opérations clés que nous avons budgétisées, une future maison de l'égalité, une aide aux associations qui luttent contre la prostitution, enfin tout ce qui concerne l'insertion professionnelle, l'entrepreneuriat. Voilà, ça correspond à la même dynamique.
Et cette maison de l'égalité, elle va ouvrir quand ?
Elle ouvrira dans les mois qui viennent et nous sommes en train d'en définir le contour, le cahier des charges avec l'ensemble des associations qui représentent les droits des femmes.
Aujourd'hui, Montpellier Agglomération fait partie des 3 intercommunalités les plus féminines. L'objectif, ça serait d'être la première ou d'être encore plus...
Non, l'objectif, il est d'être dans le temps de ce qui est normal. Les femmes sont plus nombreuses que les hommes, c'est tout à fait normal que dans les services, on assiste également à la même statistique. L'inverse serait anormal. Donc nous sommes dans la normalité, nous tenons à l'affirmer.
Alors, insoumise, c'est le premier mot du nom de cette exposition. Un terme loin d'être anodin si l'on en croit Jean-Luc Demortier, proviseur du lycée Georges Frêche de l'hôtellerie et du tourisme de Montpellier.
Il y a une espèce de paradoxe à se dire que l'insoumission peut être une qualité, voire une vertu, alors que c'est un terme qui a longtemps été péjoratif et qui a été réservé aux hommes déserteurs, aux soldats déserteurs. Mais bon, l'évolution des concepts et de la langue a fait qu'on considère, quand on voit le cas de certaines femmes notamment, que l'insoumission est une vertu parce que l'insoumission peut porter contre ce qui est injuste. Et donc là, on a l'exemple de femmes qui se sont dressées contre des injustices faites aux femmes. Et c'est en cela que leur révolte a été en soi une chose positive. Donc il me semblait important de le souligner, il y a une saine insoumission.
Et certaines de ces femmes ont même mis leur vie en jeu, vu le pays dans lequel elles se trouvaient, parmi ces 12 portraits de femmes.
C'est le cas effectivement de plusieurs d'entre elles. Alors nous, on parle de notre nation, de notre France. On a parmi les femmes en question, auxquelles l'exposition rend hommage, Yvette Roudy, qui a été donc ministre des droits de la femme. Le sujet existe quand même en France, évidemment. Mais certains pays, et pas forcément très loin de nous, font que c'est au péril de leur vie que certaines femmes se battent pour leurs droits, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'égalité de salaire ou d'égalité d'accès à l'emploi, ce qui est déjà une chose évidemment fondamentale pour lesquelles il faut se battre, mais il s'agit parfois d'acquérir un statut de majeur que toutes les femmes dans le monde entier n'ont pas encore. Femmes qui sont souvent maltraitées et qui ne sont pas traitées comme des sujets à part entière.
Et vous, de par votre place de proviseur dans un lycée d'hôtellerie, vous voyez tous les jours des inégalités au niveau des emplois exercés. Parce qu'au niveau de l'hôtellerie, les emplois les moins qualifiés sont justement les plus pris par les femmes.
C'est vrai, c'est ce à quoi il faut que nous travaillions beaucoup en parlant aux jeunes gens et aux jeunes filles que nous recevons. Il y a beaucoup d'emplois qui avaient traditionnellement été réservés aux hommes, alors qu'il n'y a aucune raison objective pour que ça le soit. Et d'ailleurs, le progrès des techniques a fait que même pour les emplois où l'on pouvait comprendre que parce qu'il y avait une certaine force à mettre en œuvre pour les exercer, bon, on pouvait comprendre que ce soit des emplois réservés aux hommes, c'est de moins en moins vrai. Il se trouve qu'en cuisine, par exemple, il y a très peu de femmes encore qui sont reconnues comme des grands chefs, alors que dans le travail domestique, chacun sait que ce sont les femmes qui prennent en charge ces tâches de la maison. Donc il nous appartient de convaincre les filles qu'elles peuvent tout à fait suivre une formation de cuisinier pour devenir elles aussi de grands chefs. On n'a aucun professeur de cuisine femme dans cet établissement, mais nous avons de plus en plus de jeunes filles qui suivent les formations de cuisine. Et je pense que dans quelques années, les choses vont se rééquilibrer de manière heureuse.
Et enfin, de votre côté, j'imagine que c'est une fierté pour votre établissement d'accueillir cette exposition.
C'est une grande fierté parce que nous formons certes des cuisiniers, des boulangers, des pâtissiers, des traiteurs, mais nous avons, comme tous les établissements, à former des citoyens. Et il faut que les jeunes que nous accueillons réfléchissent à ces problématiques parce que ce sont elles qu'ils vont porter eux-mêmes en tant que citoyens, en devenir citoyens qu'ils vont être dans les années qui viennent.
Enfin, pour suivre le parcours itinérant de l'exposition Insoumise, combat de femmes d'aujourd'hui,
Vous pouvez consulter le site de l'agglomération de Montpellier sur le www.montpellier-aglo.com. Notre émission La Fourchette de l'Actu est désormais terminée. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivie. De votre côté, si vous souhaitez connaître l'actualité de la radio, vous pouvez vous rendre sur notre site internet le www.fmplus.org ou encore aimer notre page Facebook. Quant à nous, on se retrouve lundi prochain pour une nouvelle Fourchette de l'Actu. En attendant, bonne semaine à toutes et à tous.